Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de reconduire cette coopération avec cette fantastique librairie Filigrane cette année aussi pour présenter Ramsès. Ifri Bruxelles et Ifri Paris ne font que un. Donc c'est deux sites pour un institut français des relations internationales qui a 70 collaborateurs qui travaillent sur des régions différentes et sur des thèmes différents entre santé, énergie, Russie, Asie, États-Unis et économie. Et nous avons donc aujourd'hui l'honneur de vous présenter cette nouvelle édition du Ramsès 2010 et qui fait une synthèse des évolutions internationales et une sorte de prévision pour ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, monsieur Philippe Moreau de Farge, que vous connaissez sans doute comme auteur de multiples livres sur l'intégration européenne, un des grands militants, notamment en France, de cette intégration européenne, est à la fois, depuis 10 ans presque maintenant, l'éditeur en chef, avec Thierry de Montbrial, notre directeur du Ramsès. Voilà. Et donc, il va nous faire d'abord une introduction au Ramsès. Quels sont les chapitres? Quelle est la logique sous-jacente? Pour par la suite parler avec Jacques Mistral, qui a signé responsable du chapitre économie, extrêmement important, évidemment, dû à cette récession mondiale. Et nous avons également des représentants du programme énergie, Cécile Kerrebel, Christian Schulk, moi aussi, mais je ne vais pas parler pour ne pas monopoliser la parole. Donc, ils vont faire la synthèse des questions énergétiques. Merci à vous tous d'être venus. D'ailleurs, vous pouvez prendre le Ramsès d'ores et déjà, mais attention, il faut le payer à la sortie, sinon les services policiers de la librairie Filigrane risquent de vous poursuivre. Voilà, merci.
Merci Suzanne, vous êtes parfaite Suzanne. Non, bon, alors non, je vais être bref pour la présentation du Ramsès 2010. Comme vous le savez, maintenant c'est le 28e Ramsès, donc il faut faire vivre un ouvrage qui paraît depuis donc 28 ans, ce qui n'est pas facile dans un monde hyper concurrentiel, ce n'est pas facile. Alors les éléments importants du Ramsès 2010, bien sûr je laisserai Jacques Mistral parler des aspects économiques, mais il y a deux choses qui sont importantes. Premièrement, on essaye dans Ramsès quand même d'introduire des éléments nouveaux, des thèmes nouveaux. Et c'est vrai que l'aspect nouveau de ce Ramsès, c'est la deuxième partie, dont d'ailleurs Suzanne Nice, dans laquelle Suzanne Nice a écrit, qui est une réflexion sur les politiques énergétiques. C'est-à-dire, comme vous savez, l'un des grands thèmes d'aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et derrière le changement climatique, la question des politiques énergétiques. Donc il y a toute une réflexion sur où en sont les politiques énergétiques aujourd'hui. Et va-t-on vers une révolution des politiques énergétiques? Ça, c'est un des axes. Deuxième point, comme le titre l'indique, si vous voulez, ce Ramsès a été conçu, bien sûr, à la lumière de la crise actuelle. Donc, tous les articles, la plupart des articles, sont traités. Quel est l'impact de la crise sur telle ou telle... Je voulais, avec deux questions. Quel est l'impact de la crise, par exemple, sur le Brésil, sur l'Argentine, sur l'Union européenne? Et comment le Brésil, l'Argentine ou tel acteur s'adaptent à cette crise? Donc on essaye de véritablement d'avoir une réflexion sur l'impact de la crise, avec aussi quelques thèmes de gouvernance globale. Enfin, comme le Ramsès essaye d'être aussi... complet que possible. Bien sûr, vous trouverez des articles sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique, enfin, tous les articles habituels. On a essayé de passer en revue, de peigner à peu près toute l'actualité internationale. En particulier, il y a toute une partie sur les États-Unis, bien sûr, à cause de l'élection de Barack Obama, où on essaye de montrer la problématique de l'administration Obama au moment où elle vient de prendre le pouvoir. Voilà.
Jacques. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand plaisir d'être ce soir dans cette magnifique librairie. Je vous envie parce que, bien qu'habitant à Saint-Germain-des-Prés, j'ai pas quelque chose d'équivalent sous la main. Donc, pour la deuxième année, c'est une partie économique qui ouvre le Ramsès, ce qui se comprend un peu avec comme l'année dernière. C'est la surprise qu'on a eue l'an dernier avec la gravité de cette crise et puis les interrogations que l'on a maintenant. Si j'ai quelques minutes, quand même, un peu plus que toi, parce que sinon, voilà.
Donc,
voilà. Donc, j'ai mentionné en quelques phrases les thèmes de cette partie du rapport pour introduire la discussion. Donc, un mot d'abord sur ce que nous disions pendant l'été sur la reprise. Une question qui évidemment est présente dans tous les esprits. Cette reprise, il y a une reprise qui est en cours et elle était prévisible. mais elle tient à des facteurs principalement techniques, c'est-à-dire à la reconstitution des stocks qui a mis fin au mouvement de chute libre dans lequel on a commencé l'année, et puis à l'effet des plans de relance coordonnés un peu partout dans le monde, des plans de relance à la fois budgétaires, qui prennent progressivement de l'ampleur, qui sont déjà bien partis dans des pays d'Europe où ça a été assez rapide, comme en France, qui vont prendre de l'ampleur encore aux États-Unis. Mais cette reprise, donc, elle est à la fois réelle, et il est très possible que dans quelques semaines, vous ayez des titres de journaux qui se déclarent surpris par l'ampleur de ce rebond. Ne soyez pas surpris, vous serez prévenus, c'est quelque chose qui a un mécanisme élastique dans l'économie, c'est-à-dire que cette chute très profonde, obligatoirement, à un moment donné, soit on s'effondrait de manière dramatique et on coulait complètement, ce qui aurait pu être possible l'an dernier après Lehman, mais ça a été évité justement par l'intervention des gouvernements, et donc plus cette chute était brutale, d'une certaine manière, plus le rebond sera fort, ça ne préjuge en rien de l'avenir, et il y a beaucoup d'interrogations pour l'année 2010, pour le deuxième, troisième trimestre de l'année 2010, et en particulier, il y a beaucoup d'interrogations donc sur l'avenir des politiques économiques, puisque les banques centrales créent de la monnaie en veux-tu en voilà, les bilans des banques centrales, de la Federal Reserve et de la BCE explosent, d'où des craintes liées à l'excès de liquidité, au risque inflationniste. Et de l'autre côté, les budgets publics explosent aussi en déficit. Le gouvernement français a présenté hier son budget 2010, avec un déficit prévisionnel à ce stade, avec des hypothèses assez optimistes en croissance, de plus de 8% de déficit. Donc il va y avoir, dans l'année 2010, et c'est une chose que discute le rapport, de plus en plus de réflexions, d'interrogations sur ce que les économistes appellent l'exit strategy, c'est-à-dire le moment auquel il faudra songer à retirer une partie de ces éléments de soutien. Pas trop tôt, parce que si on les retire trop tôt, alors ça pourrait accentuer le recul. On en a eu une expérience bien connue dans les années 30, en 1937, où le repli de la politique économique avait été prématuré. Donc il faut éviter ce risque. Et en même temps, il faut savoir que ces mesures extraordinaires ne sont pas tenables à très long terme. Et donc il va y avoir un réglage très, très difficile. Un autre front très important est le commerce international. Pour mettre un point d'actualité, vous avez peut-être été sensible à une mesure tarifaire adoptée par l'administration Obama il y a 15 jours. Le président, la Maison-Blanche, a adopté une augmentation de tarifs de 35% sur les pneus chinois. Et donc il y a beaucoup d'interrogations au-delà de cet exemple sur ce que l'on appelle parfois la montée du nationalisme économique. Quand on veut être plus positif, enfin, comme parfois en France, il est arrivé au président de parler du patriotisme économique. Bon, enfin, c'est la même chose. C'est des mesures qui visent à quoi ? Notre interprétation est que, mais c'est une chose qu'il faudra là aussi suivre pendant le courant de l'année prochaine, notre interprétation principale, c'est que jusqu'à présent, vraiment rien d'irréversible n'est fait. C'est-à-dire que les gouvernements adoptent des mesures qui sont de très légers coups de canif aux règles du commerce international. Même pas d'ailleurs, parce que ces mesures sont conformes aux règles du commerce international. Par exemple, la décision américaine sur les pneus est parfaitement conforme au traité. Donc c'est d'une certaine manière une application des textes, une application plus prudente, on va dire, parce que un peu partout, les pertes d'emplois, la fermeture des usines, ça suscite des réactions populaires. Et donc il est sage de la part des gouvernements d'agir pour que ces peurs, ces inquiétudes ne se transforment pas en mouvement plus puissant. Donc le commerce international est un des points qui restera chaud. Un autre point qui peut devenir très chaud, c'est la question des taux de change. Car vous voyez que depuis le début de la crise, en août 2007, il est frappant de constater que le marché des changes n'a pas connu de heurts significatifs. Le marché actions s'est effondré, le marché du crédit a été totalement bloqué, les bilans des banques sont gravement handicapés, des provisions énormes sont faites un peu partout pour dépréciation d'actifs. Le marché des changes a évolué d'une manière assez régulière. Il y a eu une revalorisation du dollar, puis de nouveau sa dévaluation au point où on en est sa dépréciation. Mais rien de très brutal, rien de vraiment dommageable. Alors ça, c'est un point à surveiller également parce que il y a une menace du fait de l'endettement des États-Unis, de leur déficit extérieur très important, que le mouvement de défiance vis-à-vis du dollar, qu'on a connu l'an dernier, recommence. Et ce qui est frappant, c'est que le dollar baisse, puis remonte, puis rebaisse. Et à chaque fois qu'il rebaisse, il baisse un peu plus loin. Et donc la dernière fois, je vous rappelle, c'était en juillet 2008, 1 euro acheté 1,6 dollars. C'est un moment où les exportateurs français criaient déjà depuis longtemps et où même les exportateurs allemands avaient commencé à crier en disant que ça leur faisait mal. Donc si cette fois, on devait voir en 2010 un mouvement de méfiance vis-à-vis du dollar, ce serait dans les relations transatlantiques, quelque chose qui serait une situation très difficile. Je conclue par le G20, auquel on consacre deux papiers, dont l'un par un collègue très très bien informé, qui a participé aux trois G20 du côté des administrations françaises, et qui parle en son nom personnel, bien sûr, mais qui est très bien informé et qui résume un peu ce qui s'est fait jusqu'à présent. Moi-même, je donne une spéculation sur ce que ça pourrait devenir. Il est clair que le G20 est une initiative très importante. Le succès de Londres a été salué comme étant quelque chose de très nouveau et de positif. Je constate aujourd'hui avec Pittsburgh qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la substance de ce qui a été apporté. C'est une très bonne chose, en bref, que la gouvernance de l'économie mondiale soit dans une structure large comme celle-ci, qui reflète les réalités du monde contemporain. Mais il y a beaucoup d'interrogations sur la façon dont ce groupe pourrait, à l'avenir, se transformer en une structure vraiment opérationnelle. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Et donc je passe la parole à Cécile, c'est ça ?
Voilà, merci. Donc moi, je vais présenter la partie énergie et climat du Ramsès 2010. En fait, c'est la première édition où une partie est entièrement consacrée aux enjeux énergétiques et climatiques. En amont de Copenhague, l'IFRI a décidé de vraiment faire un tour d'horizon à la fois de la gouvernance globale du climat, puisque on voit bien, je pense à 2 mois de Copenhague, que la négociation climatique ne se passe pas si bien qu'on le souhaiterait. Et donc il y a des véritables questions de gouvernance qui se posent. Donc ça, c'est la partie que moi je vais présenter parce que mon article dans Ramsès porte plus spécifiquement là-dessus. Et il y a également en deuxième partie de cette thématique énergie et climat, on a essayé de mettre l'accent sur les politiques énergétiques en se basant sur les sources énergétiques. Donc on parle du charbon, du nucléaire, des renouvelables, autant de solutions, de politiques qui rentrent dans cette interrogation sur le virage sans carbone que l'humanité devrait entamer si elle souhaite diviser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc sur la partie plus climat, à 2 mois de Copenhague, force est de constater que la régulation internationale du climat est mal partie. On voit bien que l'enjeu serait de réussir à diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, si on veut éviter une hausse des températures de plus de 2 degrés. Donc ça, il y a un consensus scientifique là-dessus. Mais la gouvernance globale du climat, donc, qui est en cours de négociation, se perd dans le dédale des moyens. En fait, on essaye de trouver un moyen de faire fonctionner la gouvernance à 192, puisqu'il y a 192 parties à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc on essaye que ce ne soit plus simplement les pays développés qui aient un engagement concret de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les pays en développement et les pays émergents. Donc ça, c'est une première difficulté, avoir tout le monde autour de la table. La deuxième difficulté, c'est de réussir à trouver le degré d'engagement des pays en développement. Qu'est-ce qu'on peut exactement leur demander ? Puisqu'on sait que leur responsabilité passée dans les émissions de gaz à effet de serre est presque nulle, même si on regarde la Chine et l'Inde, elles sont responsables à elles deux de 10% des émissions cumulées de gaz à effet de serre de 1900 à aujourd'hui, alors que les États-Unis et l'Europe sont responsables en gros de la moitié des émissions. Donc c'est sûr que la responsabilité des pays émergents dans les émissions passées est moindre, donc c'est pour cela que jusqu'ici ils n'avaient pas d'engagement concret. Maintenant, la Chine, depuis 2007, est passée devant les États-Unis comme premier émetteur de CO2 dans le monde. L'Inde est le 5e émetteur de CO2 dans le monde et la Russie le 4e. Donc ce sont quand même des gros émetteurs. Et l'Agence internationale de l'énergie dit que d'ici 2030, les pays émergents, et en particulier la Chine, l'Inde et les pays du Moyen-Orient, seront responsables de la totalité, en gros, de la croissance des émissions. Donc les pays de l'OCDE sont des émetteurs de CO2 de moins en moins importants. Donc ça, c'est vraiment la question. Quoi demander aux pays en développement ? Les pays développés voient la question comme un problème, finalement, d'assistance. On va essayer de les engager à la table de négociation en leur faisant un transfert financier pour les inciter à participer. Mais les pays émergents voient plus la question en termes de justice historique et d'équité. Donc là, il faut essayer de trouver une solution. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que la négociation oublie l'objectif de base, parce qu'on pourrait tout à fait se mettre d'accord sur un objectif de réduction et ensuite intégrer la question de justice et d'équité dans les transferts financiers ou l'allocation des permis d'émission. Donc ça, c'est une autre question. Donc, à 2 mois de Copenhague, quels sont finalement l'accord qu'on pourrait obtenir? C'est sûr qu'on ne va pas se mettre d'accord sur une déviation de la trajectoire qui permettrait de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. On pense qu'il va y avoir un engagement des pays développés, mais qui va bien en deçà de ce que les scientifiques estiment être nécessaire, puisque le Japon est le gouvernement qui s'est engagé à la plus forte réduction d'émissions, avec moins 25% d'émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990. Ensuite, c'est l'Union européenne qui a l'engagement le plus fort, puisqu'elle s'est engagée à une baisse de moins 20% et voire moins 30% si les autres pays s'engagent. Mais les États-Unis, quand on regarde la loi qui va, on espère, passer, en fait, ça correspond à un engagement de simplement moins 4% d'émissions en 2020 par rapport à 1990, puisque leur engagement de moins 17%, c'est par rapport à 2005. Et donc, leurs émissions ont explosé entre 90 et 2005. Donc, en fait, c'est un engagement extrêmement réduit. Or, les scientifiques disent qu'il faudrait que les pays développés s'engagent à une réduction de moins 25, moins 40% de leurs émissions en 2020 si on veut vraiment faire dévier leur trajectoire. Donc je pense que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui se posent sur cette négociation qui a perdu de vue les objectifs et qui un peu c'est en train de se perdre dans le dédale de cet énorme texte de 180 pages de négociation. On est en train de voir, il y a différents groupes de travail qui négocient. Donc le bilan pour l'instant est mitigé, mais j'espère que le Ramsès va permettre de donner certaines clés de compréhension de cette négociation difficile.
Bonsoir. Donc moi, je vais me concentrer sur un secteur dans lequel il faut réduire les émissions, la production d'électricité, qui est à peu près responsable pour 20% des émissions gaz à effet de serre au niveau mondial. Et j'aimerais commencer par 2 phrases que vous pouvez lire un peu partout dans Bruxelles actuellement. Il faudrait renoncer au nucléaire, aux accords de Kyoto aussi. Point d'interrogation. Donc c'est le forum nucléaire, l'industrie nucléaire qui nous pose cette question. Et vous voyez bien le lien qui est fait là entre l'énergie nucléaire et le changement climatique et les accords de Kyoto et espérons-le, les nouveaux accords de Copenhague. Il y a t'as d'autres exemples où on fait ces liens, mais bon, je vais me concentrer sur la production d'électricité et entre autres le nucléaire. Peut-être un petit rappel pour commencer, actuellement à peu près 2/3 d'électricité dans le monde est produit à partir d'énergies fossiles, donc de charbon, gaz naturel, au pétrole. Et le charbon, lui seul, est à l'origine de 40% d'électricité dans le monde. Nous avons 18% à peu près d'énergie renouvelable, dont la plus grande partie est l'hydroélectricité, énergie hydraulique. Et nous avons à peu près 15% de nucléaire. Au niveau européen, la part des énergies fossiles est un peu plus petite. Et la part du nucléaire est plus grande, autour de 30%. Quand même, vous voyez, les énergies fossiles dominent, mais on parle beaucoup des renouvelables et du nucléaire, et c'est là où on dit il y aura l'avenir. Oui, c'est vrai, en Europe, on va développer les deux, on va réduire la part des énergies fossiles, mais ça va être beaucoup plus difficile dans les autres pays du monde, en Chine, en Inde, ailleurs. Donc, sur le charbon, la source d'énergie la plus polluante, Vous avez peut-être lu, entendu la nouvelle technologie de CCS, Carbon Capture and Storage, séquestration et stockage de carbone, qui est beaucoup discutée actuellement, dont vous pouvez trouver beaucoup d'informations dans l'article de Suzanne Nys de Ramsès, qui reste pour moi une technologie assez douteuse, dont on ne sait pas si elle va se faire et qui a pas mal de risques par rapport au carbone qui sera stocké. Mais bon, dans mon article, dans ma contribution, je me suis concentré sur le nucléaire et les renouvelables, qui souvent sont un peu opposés, qui ont des supporters dans des camps très différents, avec des traditions très différentes derrière. Mais pour moi, il n'y a pas forcément opposition entre les deux. Et il faudra, à mon avis, à notre avis, développer les deux. Et pour le nucléaire, il s'agit plutôt peut-être de maintenir la part du nucléaire qu'on a actuellement, parce que si ça sera déjà un grand défi. On peut constater au niveau européen, grâce au sondage Eurobaromètre, que le soutien au nucléaire des Européens a augmenté. Il est passé de 37% en 2005 à 44% l'année dernière. Et il sera donc des questions très importantes se posent quant à l'avenir du nucléaire en Europe. Il y a beaucoup de gens qui parlent de renaissance, et c'est grâce ou à cause du changement climatique, des efforts de réduire les émissions, qu'on veut construire de nouvelles centrales nucléaires. Mais finalement, quand on constate, regarde plus près, la renaissance n'est pas encore là. C'est une renaissance des débats, des discours sur le nucléaire. On veut construire les pays comme l'Italie ou la Pologne qui veulent s'y lancer. D'autres qui renoncent à la sortie du nucléaire comme la Suède ou peut-être bientôt l'Allemagne ou encore la Belgique. Les centrales qui sont vraiment en construction ne sont pas nombreuses. Il y en a peut-être 2-3 et ça ne va pas suffire pour remplacer les centrales, les vieilles centrales qui doivent être remplacées bientôt. Encore 2-3 mots sur les renouvelables, énergie renouvelable, qui sont un peu regardées comme la solution miracle, en quelque sorte, qui ne sont pas épuisables. Et nous avons notamment ces dernières années l'essor des nouvelles énergies renouvelables, comme l'éolien surtout, et le solaire. Mais il faut savoir, aujourd'hui, ils contribuent peut-être 2% à la production d'électricité au niveau mondial. Donc c'est pas beaucoup. Quand même, l'Europe est la région du monde la plus avancée dans cet essor pour ces technologies. Nous avons développé d'abord à petite échelle des projets éoliens et solaires. Maintenant, on va faire des grands projets éoliens offshore en pleine mer, ou encore le solaire en Afrique, à Afrique du Nord, qui va produire de l'électricité qu'on peut après transporter vers l'Europe, vers l'Union européenne, le projet DesertTech, qui est un grand projet de futur, qui ne va pas se faire d'ici 5 ans, bien sûr. Donc, pour finir, j'aimerais insister là-dessus. Il ne faut pas surestimer le potentiel des renouvelables dans le court terme, dans les décennies à venir. Et qu'en même temps, le nucléaire ne sera pas une solution pour le monde entier. Ça peut se développer dans un petit nombre de pays qui ont une gouvernance stable et capable de réagir face aux risques et diminuer le risque du nucléaire. Donc l'avenir énergétique du monde ne sera ni tout nucléaire, ni tout renouvelable, et même pas tout renouvelable nucléaire. On aura de toute façon une grande partie d'énergie fossile. Il faut y penser malgré tous les débats qu'on a actuellement et développer ces énergies et les rendre moins polluantes. Merci.
Merci Christian. Donc lisez Ramsès, vous sauriez absolument tout sur l'énergie. À l'échéance 2015 notamment, que Cécile n'a pas évoqué, donc cette année où normalement donc, le pic doit être atteint des émissions si on veut éviter la catastrophe. Avant d'ouvrir le débat, je voudrais quand même abuser un peu de la présence du professeur Philippe Moreau de Farge. Vu l'actualité européenne, demain, le référendum irlandais, on saura le résultat que samedi soir. Philippe, Quelle est la réponse? Qu'est-ce qui va se passer?
Écoutez, je n'en sais pas pour moi, j'en sais rien. Est-ce que ce sera oui ou non? Alors, dans un contexte plus large, je crois que, hélas, quelle que soit la réponse, que la réponse soit le oui ou non, l'Union européenne est quand même dans une très mauvaise passe. Alors, pourquoi l'Union européenne est dans une très mauvaise passe? Il faut rappeler que le traité de Lisbonne, c'est l'aboutissement de près de 10 ans de négociations, puisque le point de départ, c'est le mandat de la Haken en 2001. Et depuis le mandat de la Haken, disons que le processus n'a cessé de se dégrader, de se détériorer, puisqu'au départ, il y avait un grand projet de traité constitutionnel qui s'est transformé en un projet de traité de Lisbonne. Donc on voit bien que, malgré tout, si vous voulez, le grand rêve d'une réforme institutionnelle n'interviendra que très partiellement. D'ailleurs, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, le traité de Lisbonne n'entre pas en vigueur. Hein, et on ne parvient pas à le faire ratifier. Et c'est clair que si jamais le non l'emporte, il semble bien, d'après ce que j'ai compris des rumeurs gouvernementales, on continuera avec le traité de Nice. On fera avec le traité de Nice. Bon, le traité de Nice, il est ce qu'il est, mais on se débrouillera avec le traité de Nice pour une raison très simple, c'est qu'il y a un moment donné où il faut mettre fin à ce processus institutionnel qui est sans fin. Deuxième hypothèse, le traité de Lisbonne finit par être ratifié et par entrer en vigueur. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce traité de Lisbonne répond au problème institutionnel de l'Union européenne aujourd'hui? Et malheureusement, la réponse est négative. Bon, pour prendre un exemple, on dit la grande innovation du traité de Lisbonne va être de créer un président. Enfin, l'Union européenne aura un président. Ce sera ce monsieur ou cette dame élu pour 2 ans et demi par le Conseil européen. Or, c'est faux. Si le traité de Lisbonne entre en vigueur, l'Union européenne aura au moins 3 ou 4 présidents plus 27. Bon. Puisqu'il y aura toujours le président de la Commission européenne. Il ne disparaît pas, le président de la Commission européenne. Bon. Je vous signale que, en ce qui concerne le Conseil des ministres, nous restons dans le système de la présidence tournante. Tout ça de source, on est sur moi. Donc, le président du Conseil européen, stable. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y aura toujours les 27 chefs d'État et de gouvernement. Il faut imaginer qu'après un Conseil européen, le président du Conseil européen prenant la parole, il apparaît assez peu probable que les autres ne parlent pas. Bon, donc, il faudra... Donc, je crois que, malgré tout, l'Union européenne est quand même dans une période difficile. Elle n'arrive pas à régler cette question institutionnelle. Et alors vous me direz, pourquoi elle n'arrive pas à régler cette question institutionnelle? C'est parce que, au fond, elle reste à nouveau toujours tiraillée entre deux logiques. Soit une logique supranationale, c'est-à-dire de peu à peu de créer un pouvoir supranational. Et malgré tout, l'Union européenne est un peu dans une logique supranationale. Le débat qui vient d'avoir lieu autour du renouvellement du président de la Commission ou du renouvellement de la Commission, c'est bien un débat gouvernemental dans lequel il s'agit de désigner un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre et de le soumettre au Parlement. Donc on est bien dans une logique supranationale. Et là, le gouvernement de l'Union européenne, c'est la Commission, qui on le sait, n'est pas un vrai gouvernement. Mais en même temps, et comme l'a montré avec éclat la présidence française, le rêve des gouvernements ou de certains gouvernements est de rester dans une logique intergouvernementale, c'est-à-dire au fond, l'Union européenne est gouvernée et gérée par les gouvernements, ou pour être plus clair, par les 3 ou 4 gouvernements qui comptent. Hein. Dans la vision française, soyons clairs, le gouvernement de l'Union européenne, c'est M. Sarkozy, Mme Merkel et éventuellement M. Braun. Hein. C'est ça. Bon. Est-ce que c'est là? C'est clair que, si vous voulez, malgré tout ce qui est la question qu'on doit se poser, c'est que ça fait donc près de 10 ans, disons 8-9 ans, que l'on travaille sur cette réforme institutionnelle. Est-ce que véritablement, même si le traité de Lisbonne entre en vigueur, est-ce que cette question est réglée? Voilà la question qu'on doit se poser. Bon. Moi, je vous donne ma réponse, elle est négative, la question institutionnelle n'est pas réglée, on peut entrer des accords, mais en tous les cas, il faut se poser cette question. Et je n'entre pas dans le domaine que connaît très bien Jean-Paul Magasson, qui est le domaine budgétaire, monétaire. Je préfère ne pas en parler, hein, parce que sans ça, on en aurait pour des heures.
Merci beaucoup, Philippe. Donc, en fait, il y a une troisième option qui est celle que, même avec le traité de Lisbonne, on restera plus ou moins dans une continuité de Nice. Donc, on verra tout ça l'année prochaine, pourquoi le Ramsès 2010 et le chapitre Europe de Philippe a tout son sens.